Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers frères, ce mystère de la purification de Marie et de la présentation de notre Seigneur Jésus-Christ au Temple est une des fêtes des plus riches en leçons spirituelles. Et parmi les leçons que nous pouvons tirer de cette fête, nous pourrons aujourd'hui tout spécialement demander des lumières et trouver aussi, chercher un enseignement dans ce mystère sur la façon de mieux assister à la messe. En effet, nous trouvons contenu dans cette scène évangélique tout ce qui convient pour bien profiter du saint sacrifice de la messe. Notamment 5 points. Premièrement, une bonne préparation par l'humilité qui est nécessaire pour bien assister à la messe. Deuxièmement, nous trouverons une leçon sur la plénitude de l'offrande et de l'immolation. Troisièmement, la ferveur de la communion. Quatrièmement, la fidélité à l'action de grâce. Et enfin, la continuation perpétuelle du sacrifice dans tout le cours de notre vie. Donc 5 points que nous allons voir en détail. Donc, tout d'abord, la préparation par l'humilité. La Vierge Marie, dans ce mystère, n'a rien à purifier, ni légalement, ni moralement. Sa maternité provient d'une grâce céleste qui, loin d'amoindrir sa pureté, l'a au contraire consacrée. Elle comprend cependant que c'est un honneur d'obéir, aussi s'empresse-t-elle de se ranger humblement au nombre des femmes ordinaires qui vont se purifier au temple, selon la coutume, et selon la loi de Moïse. De quelle manière Notre-Dame accomplit-elle cette loi? Ici nous trouvons un nouvel acte d'humilité. Non seulement elle n'était pas tenue d'accomplir cette cérémonie, mais elle le fait quand même, pour se ranger au nom des femmes ordinaires, mais dans la manière dont elle le fait, nous trouvons un nouvel acte d'humilité. En effet, entre les divers sacrifices possibles laissés au choix, elle préfère celui des pauvres. Moins par nécessité que par inclination pour tout ce qui est petit et caché. Il y a chez Notre-Dame cet amour des choses humbles et cachées, comme chez notre Seigneur d'ailleurs. L'humilité est ainsi dans la démarche de la Sainte Vierge, entre ses mains, sur son visage et surtout dans son cœur. De telles dispositions nous sont aussi et même davantage nécessaires lorsque nous assistons à la Sainte Messe. Et ceci d'autant plus que, contrairement à Notre-Dame, nous sommes de pauvres pécheurs. Nous n'apportons au Saint-Sacrifice que très peu de mérite. Il nous faut nous servir justement de notre pauvreté spirituelle comme de la meilleure des préparations qui soit pour nous approcher du Saint-Autel. Car nous pourrions penser que la seule attitude qui conviendrait serait celle du publicain. Se tenir au fond du temple, se frapper la poitrine, en disant « Seigneur, soyez-moi propice, je suis un pécheur. » Mais devant Dieu, l'humilité qui s'approche est mieux inspirée que celle qui éloigne. Dans cet état d'esprit, tâchons de profiter de tout ce qui, dans la messe, nous pousse à ces sentiments d'humilité et qui nous prépare à bien assister au saint sacrifice de la messe. Ainsi, lorsque nous sommes entrés dans l'Église, en prenant l'eau bénite et en nous signant, nous aurions pu demander, et peut-être l'avons-nous fait, de nous purifier de nos fautes. C'est ce à quoi sert l'eau bénite, à nous purifier de nos fautes. De même, lorsque le prêtre va arriver au pied de l'autel, il nous faudra réciter avec lui le Confiteor du fond du cœur pour demander le pardon et la rémission de nos péchés. C'est le sens de ce Confiteor au début de la messe, se purifier de nos péchés, demander pardon. Et il nous faut rentrer dans cet esprit de la messe. Enfin, à l'offertoire, unissons-nous à la prière du prêtre qui dit en s'inclinant qu'en esprit d'humilité et par la contrition du cœur, nous soyons accueillis de vous, Seigneur, et que notre sacrifice vous soit agréable. Voyez-vous encore cette insistance sur l'humilité à la porte du canon de la messe, juste avant. Préparation vraiment nécessaire pour nous, d'humble sentiment de nous-mêmes. Nous sommes des pécheurs et nous venons chercher la grâce du bon Dieu. Nous venons nous unir à son sacrifice. tout petits que nous sommes, et nous en avons besoin. Et nul n'est si avancé en perfection qu'il n'aura jamais à regretter ce temps et l'application mis à cette importante préparation qui consiste dans la sainte humilité. Quand on saisit la sainteté de ce sacrifice et notre indignité, il nous faut bien nous humilier. C'est vraiment nécessaire. Passons au deuxième point. Voyons comment Notre-Dame accomplit son offrande et l'immolation de son fils. Marie présente au prêtre deux tourterelles, et c'est l'offrande des pauvres, nous l'avons dit. Ces tourterelles sont offertes à la place de Jésus, le premier-né de Marie, dont le sang doit couler, mais plus tard. Notons bien que le sacrifice de Jésus n'est pas ajourné, car il s'opère à l'heure présente, à l'heure de la présentation au temple. Et c'est Marie qui fait l'immolation. Dans le sacrifice de notre Seigneur, bien sûr, il y aura le sang répandu sur la croix, il y aura les clous, il y aura les souffrances. Mais l'âme de ce sacrifice, c'est l'esprit d'obligation qui déjà est dans l'âme de notre Seigneur depuis sa naissance, depuis son incarnation. Et au temple, il y a comme une officialisation de cette oblation de notre Seigneur à son Père. C'est là l'esprit du sacrifice, l'âme du sacrifice de la croix. Et Notre-Dame, elle-même, a compris depuis longtemps tout le mystère de la rédemption et elle l'a accepté. Elle aussi, elle est rentrée dans cet esprit. Elle a compris les prophéties, elle les connaît. Elle désire d'ailleurs de toute son âme ce sacrifice de la croix. Elle sait que c'est par là que nous aurons la rémission de nos péchés, que le genre humain pourra obtenir la rémission de ses péchés, pour ceux en tout cas qui s'y associeront et aller au ciel, c'est la seule porte de salut pour nous. Mais là, Notre-Dame, en l'opérant elle-même autant qu'elle le peut, elle grandit ce sacrifice en s'y associant totalement, en faisant la totale oblation d'elle-même, elle qui est la véritable colombe immaculée, surabondante d'amour, ravissante de beauté. De la même façon, faisons l'application à notre assistance à la messe. Lorsque nous y assistons, nous présentons à l'offertoire par les mains du prêtre la matière du sacrifice, le fruit de la vigne et le pain de pur froment, qui ne sont pas seulement des symboles, mais qui vont avoir l'honneur d'être changés au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un grand miracle que celui de la transsubstantiation. Ce sacrifice de la messe n'a pas lieu comme celui de Marie au temple, par anticipation, grâce à la force du désir, ni comme un simple mémorial du sacrifice un jour accompli sur le calvaire, selon ce que pensent les protestants. Mais nous assistons à la rénovation réelle, quoique non sanglante. Si le sacrifice de la messe est bien supérieur à celui accompli par la Vierge Marie, il y a cependant un point, et un point important, sur lequel il lui est de beaucoup inférieur. C'est l'union de notre offrande personnelle à celle de notre Sauveur, pour nous constituer, nous aussi, réellement à l'état de victime. Il nous faut bien comprendre que, si nous assistons à la messe, si nous communions même, c'est pour recevoir cet esprit de la croix, cet esprit d'oblation de nous-mêmes à la volonté de Dieu, cet esprit d'acceptation de la croix que le bon Dieu veut que nous portions en union avec la sienne. C'est cela tout le sens de la messe. Humilité, esprit d'oblation, reprenons notre examen et voyons maintenant le troisième point, la ferveur de la communion. Pendant que Marie est absorbée dans l'offrande de son sacrifice, un vieillard, un juste, qui attendait depuis longtemps le règne de Dieu, se rend au temple. Une inspiration du ciel l'y attire. Il a obéi sans retard et il arrive à l'heure providentielle. Rien d'extérieur ne lui annonçait le mystère et pourtant il comprend tout. Dans l'enfant Jésus, il adore son Dieu. Cédant à l'ardeur de ses désirs, il le prend des bras de Marie. Il le tient alors entre ses bras, le presse sur sa poitrine, comme s'il voulait le faire entrer dans son cœur et les fixer à tout jamais. Nous ne connaissons pas la durée de cet embrassement, mais qu'importe. Pour opérer de grandes choses, le temps d'un éclair suffit. Si seulement il se passait pour nous quelque chose de semblable au moment de la communion, car ce n'est pas entre nos bras, ce n'est pas sur notre cœur que nous possédons notre Dieu, mais dans notre âme même, au plus intime de nous-mêmes. Lui avons-nous préparé la place, par notre fidélité habituelle aux inspirations du Saint-Esprit ? Avons-nous fait entrer dans notre âme les plénitudes de grâce, par la sainteté de nos désirs à recevoir notre Dieu, et par notre renoncement à toute chose terrestre, pour faire de la place ? La ferveur sensible n'est pas indispensable, et ce corps grossier qui est le nôtre, bon gré mal gré, appesantit notre âme. Mais il y a pourtant une mesure d'esprit de foi, d'adoration, de dévotion, compatible avec notre mystère, et dont nous ne devrions jamais être dépourvus. Quatrième leçon que nous pouvons tirer de ce mystère, l'action de grâce. Le saint vieillard Siméon n'était pas de ces âmes si ardentes à demander et si négligentes à remercier. À peine exaucé, il se met à bénir le Seigneur, c'est-à-dire à le remercier et à le glorifier, de cœur plus encore que de lèvres. Il chante son Nunc Dimittis, dans les mêmes sentiments de reconnaissance qu'avait apporté Marie à chanter le Magnificat et Zacharie le Benedictus. « Maintenant, ô Seigneur, s'écrie le vieillard Siméon, laissez aller en paix votre serviteur, car mes yeux ont vu mon Sauveur, celui qui doit être la lumière des nations et la gloire de son peuple d'Israël. » On croit qu'en effet les désirs du vieillard furent exaucés, et que peu de temps après, il mourut pour aller se reposer en Dieu. Il avait fait cette prière, « Maintenant, laissez partir votre serviteur en paix. » Et il est mort sûrement peu après. Il y a là un modèle à imiter dans nos actions de grâce. Nous devons y apporter, nous aussi, une spontanéité du cœur, qui tantôt doit se manifester par la récitation de formules usitées dans l'Église, tantôt se développer à l'intérieur dans un acte d'offrande immense, ou dans un profond silence d'adoration, d'admiration, pour se terminer par la demande. Il est possible d'utiliser la méthode, pour bien faire action de grâce, la méthode Ardor, qui reprend un petit peu tous ces sentiments de l'âme nécessaires lors de l'action de grâce. Ardor en latin signifie ardeur, et les cinq lettres du mot Ardor peuvent nous aider à nous rappeler cinq sentiments d'âme que nous pouvons avoir dans nos actions de grâce. Tout d'abord, A, l'adoration. Adorer notre Dieu. Il est tout-puissant, il est notre Créateur, notre Rédempteur. Nous lui devons tout à tout instant, l'adorer. R, remercier, rendre grâce. Nous lui devons tout. D, demande. Lui demander ce dont nous avons besoin pour notre âme, pour aller au ciel, pour grandir en sainteté. Aussi les besoins temporels, bien sûr, mais d'abord les besoins de notre âme. Offrande de nous-mêmes à la volonté de Dieu, pour porter notre croix tous les jours avec lui et appliquer les commandements de Dieu. Et enfin, R, résolution d'amender notre vie, de se corriger, de faire des efforts, de se confier dans la grâce reçue dans le sacrement pour faire les efforts que nous devons faire. Demanderons-nous, nous aussi, de quitter cette terre comme le vieillard Siméon, en recevant la communion, cette terre où se voient tant de choses opposées à notre Seigneur Jésus-Christ, ce serait sans doute ce qu'il y a de beaucoup le meilleur. Mais nous sommes trop mal préparés pour mériter une telle faveur. Demandons de mieux servir notre Seigneur, et attendons que la communion nous soit apportée en viatique, pour alors nous aussi prononcer notre Nunc Dimittis. Concluons Par le cinquième point, après l'humilité, l'immolation, la ferveur de la communion, l'action de grâce, voyons maintenant la continuation perpétuelle du sacrifice dans tout le cours de notre vie. Au milieu des sentiments de joie et des bénédictions qui remplissaient le temple, une parole inattendue se fait entendre. « Ô Mère, dit Siméon à Notre-Dame, dans un mouvement prophétique, un glaive de douleur traversera votre âme. » Notre-Dame aurait pu répondre « Que sera-ce, par pitié, hâtez-vous de me l'expliquer ?» Avoir ce glaive suspendu sans savoir l'heure, l'occasion, le mode de la blessure, ah, c'est par trop d'angoisse, ou quelque chose de semblable. Mais il n'en est rien. Notre-Dame, au contraire, garde le silence. Elle se tait. Et Siméon n'ajoute rien, lui non plus. Peut-être ne sait-il pas lui-même ce qu'il en sera, ce qu'est exactement ce glaive de douleur. Notre-Dame s'incline donc, elle adore, elle accepte et elle retourne à Nazareth. Là, elle va qu'à ses travaux domestiques, pratiquant toutes les vertus, n'ayant sur le visage que la paix de l'abandon et le sourire de la bonté. Sur le calvaire, elle comprendra parfaitement et aura en vérité son âme transpercée de part en part. C'est cela, le glaive de douleur qui lui a été prophétisé. Ce sera pour le calvaire. Tel doit être pour nous aussi le résultat dernier, permanent du saint sacrifice de la messe. Nous faire descendre de nos grandes idées d'immolation, plus théoriques et éblouissantes que sérieuses et pratiques. Il nous faut au contraire nous habituer à transporter l'esprit d'immolation sur son véritable terrain. Cela aura lieu par une offrande de nous-mêmes, en apparence banale et vulgaire, tant elle se mêlera d'une manière invisible et constante à nos actions, prières, douleurs et tribulations de toutes sortes. Cet esprit d'immolation doit être dans le commun de nos vies, dans les petites choses. Peut-être aurons-nous, nous aussi, de grandes choses à souffrir à l'avenir. Peut-être qu'un glaive de douleur viendra vraiment transpercer, nous aussi, notre cœur. Oh, pas de la même façon que la Vierge Marie, c'est impossible. Mais d'une certaine participation, en tout cas. Mais comme la Vierge Marie, d'ici là, et quoi qu'il en soit, cet esprit d'immolation doit être dans le commun dans nos vies, dans les petites choses. C'est là que se joue la sainteté, et pas ailleurs. Demandons donc ces grâces à la Vierge Marie, l'humilité, l'immolation, la ferveur de la communion, l'action de grâce, et le fruit de la messe, qui est l'immolation dans les petites choses tout au long de la vie, dans la petitesse de nos journées. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.